Quelle est votre vision de la vie chrétienne? Quelle est votre vision de la vie chrétienne? La Bible nous en offre plusieurs exemples. La vie chrétienne peut être comparée à un voyage, une sorte de pèlerinage. Nous allons quelque part, dans les lieux célestes. Ou une relation. La vie chrétienne peut être vue comme une relation, de connaître Jésus, avancer avec notre connaissance de ce sauveur merveilleux qui est Jésus. Une autre vision, c'est la vie chrétienne comme une mission à accomplir, faire connaître Jésus aux autres. Une autre possibilité, c'est une vie de communauté, l'Église, le peuple de Dieu, la famille de Dieu. Ou une course, la Bible décrit la vie chrétienne comme une course. Tout ce que ça implique, discipline, entraînement, un prix à gagner, persévérance. Ou finalement, la Bible décrit la vie chrétienne comme une bataille, hein, qui implique une lutte, une guerre, faire face à une opposition tenace. Et en réalité, c'est tous les six. On ne peut pas juste dire que la vie chrétienne, c'est une de ces choses. La vie chrétienne, c'est tous les six ensemble. Les évangiles nous donnent un résumé du message de Jésus lorsqu'il a commencé son ministère en Galilée, il y a plus de 2000 ans maintenant. Jésus a prêché tout simplement « changez de vie et croyez à la bonne nouvelle ». Si vous voulez un résumé du message chrétien, c'est ça. « Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle ». Croyez à la bonne nouvelle. En Jésus-Christ, Dieu lui-même est venu dans ce monde pour nous inviter à commencer un voyage qui terminera dans les lieux célestes, à commencer une relation profonde avec lui, à nous engager dans une mission qui aura des résultats éternels, à vivre dans une communauté où nous sommes aimés, respectés, valorisés. Ça, c'est croire la bonne nouvelle. Changer de vie ou changer d'attitude, une autre possibilité de la traduction. Mais c'est là où on rencontre parfois des difficultés de l'opposition. Il y a une citation de Bernard Montgomery, qui était un des commandants plus importants britanniques dans la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que c'était à lui, qui disait que le secret de la victoire, c'est de connaître votre ennemi. Le secret de la victoire, c'est premièrement de connaître votre ennemi. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons au moins trois ennemis redoutables, selon la Bible. Le monde, la chair, le diable. Trois ennemis qui nous empêchent à entrer dans tout ce que Dieu a pour nous. Le monde, c'est quoi le monde ? Le monde, dans ce sens, c'est l'état d'esprit, les aspirations, les valeurs, la façon de vivre et d'agir propre à ceux qui sont loin de Dieu. Si vous voulez une définition courte de ce que c'est le monde selon la Bible, c'est l'état d'esprit, les aspirations, les valeurs, la façon de vivre et d'agir propre à ceux qui sont loin de Dieu. Autrement dit, c'est tout ce qui résiste au premier commandement. D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Deuxième ennemi, c'est la chair. C'est notre égoïsme inné. Hein? Tout ce qui est en nous qui résiste au deuxième commandement, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Hein? Et le diable, cet ange déçu, qui s'oppose à tout ce que Dieu veut faire en nous et autour de nous. Le diable, le menteur par excellence, le tentateur, l'accusateur, celui qui nous rend la vie affreuse. C'est là où la vie chrétienne peut ressembler à une lutte, une bataille, une guerre. On lutte contre cette façon de penser qui pense que Dieu n'existe pas. on lutte contre ce qui est en nous qui résiste à ce commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de pardonner, d'accueillir. Et le diable, on lutte contre lui. Parce que lui, il lutte contre nous. Nous sommes dans une série de prédications dans le livre de Josué. Et nous arrivons aujourd'hui à la fin. La série avait le titre « Les clés du courage ». Et on a étudié, on va terminer avec le 11e, 10e et 11e chapitre de Josué aujourd'hui. Le livre de Josué, c'est le 6e livre de la Bible, donc on est bien dans l'Ancien Testament. Et le livre de Josué s'appelle Josué parce qu'elle parle d'un certain... Ah, vous êtes théologien, vous. C'est bien, ça. Et Josué était le successeur de... Moïse. Oui. Et Moïse a emmené le peuple d'Israël de... Oui, vers le... Là. Terre promise, oui, canon, terre promise. C'est vrai. Le peuple d'Israël, dirigé par Moïse, est sorti de l'esclavage en Égypte. Et après 40 ans de vie nomade, le peuple est arrivé aux frontières de la terre que Dieu leur avait promise. Moïse est décédé, et c'est Josué qui avait la responsabilité de diriger le peuple et de prendre possession de ce pays qui coulait de lait et... Ah, c'est bien. Lait et miel. Quelle image merveilleuse des promesses de Dieu pour nous. Et c'est le sujet, c'est ça le sujet du livre de Josué, et en particulier les chapitres 10 et 11 que nous allons explorer aujourd'hui. Ce sont les chapitres sanglants quand on les lit. C'est l'histoire de bataille après bataille après bataille. Et Joel Short a bien traité cet aspect de l'histoire. Comment on peut, comment ça entre dans notre vision globale de Dieu et de ses relations avec ce monde. Donc je ne vais pas retraiter ça. Parce que Joël a fait admirablement. Mais la situation du chrétien dans le Nouveau Testament est tout à fait différente de la situation de Josué dans l'Ancien Testament, où il y avait la bataille pour gagner un terrain physique. L'apôtre Paul dit dans ce deuxième lettre aux Corinthiens. Il explique un peu quelle est notre situation. Il dit, nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine, pas comme dans l'Ancien Testament. Non, les armes que nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Donc c'est une bataille plutôt dans les façons de penser, en nous-mêmes et en ceux qui nous entourent. Et le champ de bataille, c'est dans notre esprit. Et c'est dans nos pensées. En Josué chapitre 10, il y a quand même les principes qui peuvent nous aider dans notre lutte contre le monde, la chair et le diable. Je vous pose une question. Est-ce que vous luttez contre une injustice ? Peut-être dans votre lieu de travail, peut-être dans votre famille, il y a une lutte contre l'injustice. Est-ce que ou lutter contre une addiction. C'est un accro à la pornographie ou, je ne sais pas, le désir d'avoir toujours plus de choses. Vous êtes serviteur de l'argent plutôt que Dieu. Est-ce que vous connaissez une situation où le diable sème la pagaille dans votre vie personnelle, dans une situation que vous connaissez? Et on a déjà pensé ce matin dans le culte de cette situation en Haïti, quoi, où le diable sème la pagaille comme il n'est pas possible. Nous avons tous un champ de bataille quelque part. Ou peut-être il y a une autre situation où vous luttez, que je n'ai pas décrit là, mais vous savez tellement bien dans votre cœur qu'il y a une lutte là. Et parfois, vous levez le matin, vous sortez avec plein d'encouragement, vous revenez le soir complètement épuisé, un sens de défaite dans votre cœur. Il y a une lutte là. Que dit Dieu dans ce livre de Josué pour nous encourager? On ne va pas lire toute l'histoire en chapitre 10 et 11, c'est assez répétitif. Bon, j'ai choisi juste trois versets. Josué 10, versets 41 et 43. On va regarder ces versets en particulier pour la prédication aujourd'hui. Josué soumit toute la région de Kadesh-Barnéa jusqu'à Gaza et le district de Goshen jusqu'à Gabaon. En une seule campagne, il vainquit tous les rois et s'empara de leur territoire. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Ensuite, Josué et tout Israël avec lui regagnèrent le camp de Gilgal. Surtout les dernières deux phrases là. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Ensuite, tout Josué et tout Israël avec lui regagnèrent le camp de Gilgal. Dieu avec nous. Dieu combattait pour son peuple. Si vous lisez les chapitres 10 et 11, vous remarquerez plusieurs choses sur les ennemis de Josué. Ils étaient forts. Ils faisaient en plus des alliances contre le peuple d'Israël. Certains étaient bien équipés avec une technologie haute de gamme, des chars. D'autres, tout simplement par leur taille, donnaient peu juste à les regarder. Bref, ils étaient forts et nombreux. Josué gagnait une victoire et tout de suite après, il avait une autre bataille. Vous connaissez ça, peut-être vous-même, où il y a des difficultés qui s'enchaînent. Vous pensez que vous avez gagné une victoire et pouf, il y a un autre problème qui se lève douce devant vos yeux. Relisons le verset 42. En une seule campagne, Josué vainquit tous les rois et s'empara de leur territoire, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Amen. Si vous êtes dans une lutte ou une bataille en ce moment, pensez à cette vérité. Dieu combat pour son peuple. Fortifiez-vous avec cette pensée. Et ce n'est pas la première fois que je vous donne la prochaine citation d'un grand prédicateur du 19e siècle en Angleterre, Charles Spurgeon. Je me nourris des pensées de cet homme-là. Et je trouve que cette citation qui va suivre est peut-être la chose la plus forte qu'il a jamais écrite. Donc, le niveau est haut là. Voilà une citation de Spurgeon. Il a dit, « Dieu est fidèle. Il est fidèle dans son amour. En lui, il n'a ni variation, ni aucune ombre de changement. Il est fidèle dans ses desseins. Jamais il ne commence une œuvre pour la laisser inachevée. Quelle bonne nouvelle! Il est fidèle dans ses relations. Comme un père, il ne renoncera jamais à ses enfants. Comme roi, il ne reniera jamais son peuple. Comme créateur, il n'abandonnera pas l'ouvrage de ses mains. Il est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas qu'aucune d'elles soit sans réalisation à l'égard d'un seul croyant. Il n'y a pas d'exception dans le peuple de Dieu. Il est fidèle à son alliance qu'il a traitée avec nous par Jésus-Christ et ratifiée par le sang de son sacrifice. Il est fidèle à son Fils, Jésus, et ne permettra pas que son sang ait été répandu en vain. Ah, ça c'est faux. Il est fidèle à son peuple, auquel il a promis la vie éternelle et dont il ne se détournera pas. Ah, quel repas spirituel nous avons là, dans cette citation de Spurgeon. Mais j'ai trouvé une autre citation de lui qui nous aide dans les situations de conflit et de bataille. Lui, il n'avait pas une vie facile au niveau de sa santé, au niveau des difficultés dans son ministère, etc. Mais dans la dernière prédication qu'il a prêchée après 40 ans de ministère, voilà ce qu'il a dit. Il parle de Jésus. Il dit, de tous les capitaines qui pardonnent les injures et qui sont bienveillants envers les faibles, Jésus est le meilleur. Parmi les princes les plus nobles, il n'y a personne comme lui. Dans les batailles, il est toujours au cœur de l'action. Lorsqu'il fait froid, c'est toujours lui qui prend le côté exposé du vent. La partie la plus lourde de la croix reste à jamais sur ses épaules. S'il nous demande de porter un fardeau, il le porte aussi. On peut terminer là. Dans les batailles, il est toujours au cœur de l'action. Dieu combattait pour son peuple. En Jésus, il continue à le faire. L'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Pour son peuple, nous, quel encouragement si vous avez déjà mis votre confiance en lui. Et quel encouragement à le faire s'il n'est pas encore le cas. Dieu avec nous. Il y a un deuxième aspect dans ces versets que nous avons lus. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Ensuite, Josué et tout Israël, avec lui, regagnèrent le camp de Gilgal. On va réfléchir à ça un peu maintenant. Le camp de Gilgal. Quelle était l'importance de ce lieu Gilgal pour Josué et son peuple? Gilgal se trouvait juste à côté de la grande ville de Jéricho. Et c'est là où le peuple d'Israël a établi le camp après avoir traversé le Jourdain à pied sec. Ils ont vécu un miracle. Et c'est là où ils ont établi le camp avant de commencer la campagne pour gagner le pays. C'est là où Josué a fait ériger 12 pierres prises dans le lit du Jourdain en souvenir du miracle qu'ils avaient vécu. C'est à Gilgal que le peuple a mis les choses en ordre dans leur relation avec Dieu, la circoncision qu'ils avaient négligée pendant les 40 ans dans le désert. C'est à Gilgal que le peuple a reçu le pardon de Dieu pour leur manquement dans le passé. C'est à Gilgal qu'ils ont célébré la Pâque, pas Pâque, mais la Pâque, qui est un souvenir de la libération de l'esclavage en Égypte. Et c'est à Gilgal que la manne, ce pain du ciel qui tombait chaque matin, la manne a cessé de tomber. Un signe que le peuple sont arrivés dans la terre promise, où ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Donc Gilgal étaient toutes les vérités qui concernent le peuple d'Israël étaient symbolisées dans ce lieu, Gilgal. Gilgal de servir comme rappel des vérités importantes dans leur relation avec Dieu. Ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il faisait pour eux dans le présent et ce qu'il ferait pour eux dans l'avenir. Tout était là, le plan de Dieu pour son peuple. Tout était symbolisé par ce lieu Gilgal. Donc, ce n'est pas étonnant que le peuple y retournait pour se ressourcer et s'orienter dans le combat. Il nous donne un exemple à suivre, car nous avons, nous, notre propre Gilgal. Et notre Gilgal, c'est la croix de Jésus-Christ. Ou on peut aussi dire que se rassembler tous ensemble un dimanche matin, c'est une sorte de Gilgal. Parce que c'est là où on concentre nos pensées sur ce qui est important dans notre relation avec Dieu. Quand on prend la scène, c'est une sorte de Gilgal. Là, on se rappelle de tout ce que Dieu a pour nous et tout ce que Dieu est pour nous. Mais c'est surtout à la croix qu'on pense à ce que Jésus a fait pour nous. La période, on entre dans la période de Pâques aujourd'hui, cette semaine qui nous amène au Vendredi Saint. On va célébrer ça ce vendredi. Et puis, de Pâques, ou dimanche de Pâques, on réfléchit pas seulement sur la crucifixion de Jésus, mais sa résurrection, le fait qu'il est vivant et toujours avec nous. Et donc, c'est à la croix que nous voyons le miracle, la victoire par excellence. Jésus-Christ, Fils de l'homme et Fils de Dieu, a donné sa vie pour nous et qu'il est ressuscité le troisième jour. Je pense que c'était la semaine dernière, Manu a cité le verset bien connu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Le miracle se passe quand on met notre nom dans ce verset. Le quiconque, c'est qui le quiconque? C'est moi, c'est vous. Et si on dit, tu peux te prendre comme exemple, mon frère, Axel, car Dieu a tant aimé Axel qu'il a donné sa vie afin que Axel ne périsse point. Mais qu'Axon, la vie éternelle. Hein? Le miracle se passe quand on prend ce verset et on l'applique pour nous-mêmes. Et c'est une ouverture à Jésus d'entrer dans notre vie et par son Saint-Esprit. Ça, c'est le miracle. Dieu nous donne le pardon de tous nos fautes, de tous nos manquements et son Saint-Esprit qui nous purifie de toutes nos iniquités. C'est un travail qui dure toute notre vie, mais ça commence là à la croix. C'est à la croix que nous pouvons trouver la terre promise, une porte ouverte à toutes les promesses de Dieu. C'est à la croix. C'est à la croix que nous commençons cette vie nouvelle que Jésus nous offre. Et c'est à la croix que nous pouvons nous ressourcer pour faire face à tous nos combats, tous les combats dans notre vie. L'amour de Jésus nous motive à vivre pour lui et pas pour nous-mêmes. Le pardon de Jésus et le don de son Saint-Esprit sont le point de départ et la ligne d'arrivée dans notre lutte contre le mal qui est en nous. Tout est là en ce que Jésus a fait pour nous. C'est à la croix que Jésus a gagné la victoire décisive et définitive sur le diable et toutes ses machinations. À la croix. La croix est notre Gilgal. C'est là où se réunissent les vérités importantes qui dirigent notre vie. Combien nous avons besoin de nous nourrir de tout ce que Jésus a fait pour nous. Il nous pardonne. Il nous purifie. Il nous donne une vie nouvelle. Il nous réconcilie avec Dieu le Père, qui nous pourvoit de tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. Tout ce qu'on a besoin est là. Jésus a commencé la lutte contre ses ennemis. Josué a commencé la lutte contre ses ennemis en partant de Gilgal et il y est retourné après avoir gagné la victoire. Et nous, n'est-ce pas un exemple pour nous de commencer chaque jour à notre Gilgal en réfléchissant sur ce que Jésus a fait pour nous. Peut-être que ça serait un verset biblique que vous lisez ou une petite méditation ou quelque chose pour vous rappeler le matin ce que Christ a fait pour nous. Et quand vous revenez le soir, avant de vous coucher, de repenser à ça. Repensez, parce que c'est toujours vrai ce que vous avez lu le matin et reste toujours vrai le soir. Votre Gilgal, quelque chose que vous faites pour vous rappeler de tout ce que Christ est pour vous et tout ce que Christ a fait pour vous. Comme Spurgeon a dit, il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et... Il vous aime. Bientôt Pâques. On termine. Chaque année, nous célébrons à Pâques la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Et là, on a le programme d'église construit autour de là. Vendredi soir, on va réfléchir sur la crucifixion. Dimanche matin, sur la résurrection de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est le dimanche avant Pâques. Christian Bauger a fait référence à ça dans sa prière, je pense. C'est le dimanche avant Pâques, ce jour où on rappelle de comment Jésus est entré à Jérusalem. Jésus est entré à Jérusalem pas orgueilleux, avec une épée et monté sur un grand cheval blanc, mais humble et monté sur un âne, symbole de paix. Et c'est de cette façon que Jésus vient à nous aujourd'hui. Humble, mais puissant pour nous sauver de tous nos ennemis. Accueillez-le maintenant. Amen.